J'ai 20. Une petite pièce, s'il vous plaît. J'ai 20.
Monsieur Mermet, je me permets. Je me permets de vous appeler parce qu'on parle beaucoup de la crise en ce moment, mais on parle peu de ceux qui agissent concrètement pour lutter contre ses conséquences. Et forcément, comme on est en temps de crise, on parle encore moins de culture. Eh bien moi, je profite du trou normand du G20, vous savez que je ne bois pas d'alcool, pour vous parler de la culture qui lutte contre les conséquences de la crise. Vendredi 3 avril, au Palace à Lillers, dans le Pas-de-Calais, aura lieu un concert de soutien pour les salariés de Faurecia à Auchel, avec notamment le groupe Flobar, dont l'action envers les autres n'est plus approuvée. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le www.flobar.fr, F-L-O-B-A-R-D. Et puis maintenant, je vous laisse, parce que là, il y a le gigot, il y a la menthe qui arrive. Allez, au revoir, monsieur Mermet.
À part taper sur Sarkozy, vous faites quoi d'autre? Rien. C'est que de l'anti-sarkozisme primaire que vous faites. Tout ce que Sarkozy fait, c'est nul. Et ça, ça commence à me gonfler, d'autant que ça m'énerve de me dire que je paye une redevance pour financer des connards de votre espèce.
Bonjour, là si j'y suis, bien le repère de Grenoble, ce soir jeudi 2 avril, ouvrira ses portes à 18h30. On parlera de l'avenir de la planète, et puis d'autres choses éventuellement. Alors, restera la bonne heure. Allez, à ce soir, merci, au revoir.
Ouais, salut les AMG, salut Daniel. Eh ben alors, une fois de plus, tu mets judicieusement le doigt là où ça fait mal. Dans ton émission d'hier, tu parles de croyances à propos de l'idéologie néolibérale capitaliste. Un sujet, je pense, à développer peut-être dans d'autres émissions. Il se trouve que je termine, moi, juste la lecture du livre de Régis Debray, Le Moment de Fraternité. Bon, il développe la thèse de la roque érosée, la religion occidentale temporaine, que j'appellerais, moi, la religion occidentale capitaliste. Enfin, ça revient au même. Bon, on y trouve de nombreuses pièces à charge contre les nouveaux théologiens qui pourraient bien être du type Val, BHL et consorts. Contre les nouveaux missionnaires, tel notre célèbre condamné d'avance, Kouchner. Une piste aussi sur les raisons de notre comportement, peut-être d'esclaves consentants ou de bons fidèles, etc., etc. Enfin, merci encore à toi pour tes efforts de démystification de notre société et de la pensée dominante. Voilà, continue. Allez, c'est Jean-Marie du repère de Bourg-en-Bresse.
J'ai 20. Une petite pièce, s'il vous plaît.
Le repère d'Annecy attend Mermet samedi soir à la turbine de Grangevrier pour la projection de Chomsky. Qu'on se le dise et répète.
Oui, bonjour Daniel et son équipe. Voilà, je m'appelle Noufissa, je vous appelle de Strasbourg. Pour vous dire, il y a le sommet de l'OTAN, ça fait plus de 15 jours, c'est bouché à Strasbourg, on a les flics partout, on a des hélicoptères qui tournent au-dessus de nos têtes, nos enfants sont stressés, nous aussi, il y en a marre, voilà. Continuez, au revoir Daniel.
Salut Daniel, salut à toute l'équipe, donc petit rappel des faits, le 3 et le 4 avril prochain, réunion des bellicistes de l'Atlantique Nord dans notre bonne vieille ville de Strasbourg. Parallèlement à ça, depuis aujourd'hui, nos camarades autonomes ont installé un beau village autogéré, une petite expérimentation grandeur nature de ce qu'on sait faire. Et le 3 et le 5 avril, organisation d'un contre-sommet dans la bonne vieille ville d'Ilkirch, au complexe sportif Lixenbühl, avec débats, conférences, ateliers thématiques, présence de divers partis, du collectif anti-OTAN international, enfin bref, que du beau monde et du monde fréquentable, contrairement à l'autre sommet qui se passera de l'autre côté de la ville, cadenassé dans ses murs. Ciao!
Voilà, Notu Nato. On va à Strasbourg aujourd'hui avec François Ruffin qui a fait un petit tour dans cette bonne ville de Strasbourg dont vous savez absolument tous, que vous savez, c'est l'incroyable dispositif sécuritaire qui a été mis en place dans cette ville et alentour. On va l'évoquer, mais avec un certain nombre d'intervenants, de militants, d'observateurs, d'historiens, de spécialistes divers et variés. On va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que cette OTAN. Pourquoi est-ce que l'OTAN a survécu à la guerre froide, et quel est le sens de cette intégration? Vous le savez, bien sûr, la France va réintégrer le commandement de l'OTAN. Pourquoi, comment, quel est le sens de tout ça? C'est ce que nous allons essayer de comprendre d'ici à 16h dans Là-bas si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de Là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, le réseau Éducation sans frontières et le groupe indépendant Bazar Sonic organisent le 9 avril prochain, c'est-à-dire jeudi prochain, à la Bellevilloise, sur Paris, 15-20 rue Boyer, la soirée « On n'a pas bourré les charters ensemble ». Soirée de soutien aux sans-papiers donc, avec une introduction d'Albert Jacquard à 19h15, et puis pas mal de groupes, Dame Barnum, Les Lapins Superstars, Kemar et Chanka du groupe No One is Innocent, Rodolphe Borger et Raphir Alfiro, et des interventions bien sûr de RESF, de la Ligue des Droits de l'Homme, et je l'espère, des délinquants solidaires. Voilà, l'entrée est à 10 euros, les bénéfices seront reversés à RESF, c'est donc à la Bellevilloise le 9 avril prochain. Merci.
Oui, bonjour, simplement pour savoir si vous pouviez mettre à l'ordre du jour le débat sur l'AER qui a été supprimé au 1er janvier 2009 et qui laisse environ 70 000 familles dans la misère la plus totale puisqu'ils toucheront le RMI. Merci.
Jeudi 2 avril à 20h45 et lundi 6 avril à 20h45, projection du film Chomsky et compagnie au Cinéma Rex d'Espalion. Venez nombreux, à bientôt et salut.
J'ai 20, une petite pièce, s'il vous plaît.
Daniel, je me pose la question, doit-on dire, il faut un riche pour faire vivre des milliers de pauvres, ou il faut des milliers de pauvres pour faire vivre un riche? Qui peut répondre?
Un petit message du Tarn, ce samedi 4 avril, réunion autour de la décroissance au café Le Poétique à Mazamet. Nous diffuserons le film du collectif Utopimage, Simplicité volontaire et décroissance, à partir de 15h, suivi d'un débat animé par deux intervenants. Plus d'infos sur le blog la-ba.tarn.over-blog.com. On vous attend à partir de 15h au Poétique à Mazamet. Merci.
Je pense donc que je nuis. Le titre de l'émission d'aujourd'hui, contrefaçon du cogito cartésien. Et alors ça m'a frappé, ça, je pense donc, je nuis, ça m'a rappelé que il y a quelques jours, une quinzaine de jours par là, je me trouvais à l'hôpital où était ma mère, et je me mets à discuter avec une infirmière et une aide-soignante. Alors j'y suis allé discuter parce que l'infirmière a été vraiment très très charmante, elle me plaisait beaucoup, mais jeune, hein, le genre de femme dont je me dis, oh quel dommage que j'ai pas 25 ou 30 ans de moins. Et puis vraiment très agréable, assez jolie, gracieuse, naturelle, pas le genre sophistiqué, sérieuse, qui fait bien son travail, tout ça, donc... Alors on parle et puis elle me demande ce que je fais. Alors j'ai dit que j'étais enseignant. Ah bon, quelle matière? La philo, ah d'accord. Mais j'explique comme ça que j'étais plus en activité suite à de la dépression. J'étais passé en congé longue durée, etc. Puis en invalidité. Et je dis oui, dans la vie, moi j'ai tendance à qu'on peut pas bien réagir parce que je gamberge. Et que très souvent dans la vie, il vaut mieux agir que de réfléchir. Et alors voilà que cette jeune femme que je trouvais tout à fait délicieuse me dit, parce que j'ai oublié de vous préciser, ça se trouvait dans un hôpital d'instruction des armées. Donc elle a eu une formation militaire. Et voilà qu'elle me répond, oui, vous savez, comme on dit à l'armée, réfléchir, c'est désobéir. Et alors là, je suis resté tout interloqué. Comme ça, tout s'est effondré. Je me dis, merde. Quand je pense que j'étais tombé amoureux d'elle, ça a été très difficile, évidemment, la vie commune. Comment se fait-il qu'on soit attiré par des jeunes femmes tout à fait délicieuses, désirables, mais qui disent « réfléchir, c'est désobéir ». Ah, puis alors ça, je ne changerai pas. Hein. Je tombe toujours amoureux du même genre de femme. Allez savoir pourquoi.
Alors, Alors vous, je sais pas comment vous faites, mais moi je prépare l'après-crise avec Valeo. Bon, en plus j'économise du papier, je fais mes photocopies recto verso, alors avec toutes ces économies d'énergie, je vais pouvoir me faire construire une piscine. Eh oui, une piscine bonheur. En plus, comme j'ai plein de temps libre, oui, j'ai été licencié. Et je vais passer mes journées dans ma piscine. Bon, en plus, il paraît que ça rapporte une plus-value à ma maison. Ça tombe bien, parce que comme j'ai pas de retraite, je vais pouvoir vendre ma maison quand je serai vieux. Pratique. Merci, France Inter, pour tes beaux conseils. Allez, salut.
J'ai 20. Une petite pièce, s'il vous plaît. J'ai 20.
Juste après le G20, justement, c'est le sommet de l'OTAN qui va se tenir à Strasbourg.
France 3, 29 mars 2009.
27 chefs d'État sont attendus, dont Barack Obama. On s'attend aussi à un contre-sommet avec une manifestation qui devrait réunir de 30 à 60 000 personnes. L'événement est donc à haut risque et vous le voyez, Michel Alliomari s'est rendu dans la capitale alsacienne ce matin pour superviser la mise en place des mesures de sécurité. 5 jours avant ce sommet, elles sont déjà draconiennes, ces mesures de sécurité. Les forces de l'ordre sont omniprésentes, les contrôles incessants. Et en fin de semaine, les écoles seront même fermées et les autoroutes coupées.
C'est dans une ville de Strasbourg quasiment en état de siège que l'OTAN va donc célébrer son 60e anniversaire. Seuls les professionnels chargés de l'organisation...
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec François Ruffin. No to NATO.
Ne veut pas dire abandonner sa souveraineté.
À partir de jeudi, autour de la cathédrale et du palais des congrès, deux zones rouges seront délimitées. Impossible d'y accéder sans laisser passer.
Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Oui. Je viens voir un peu si vous vous sentez protégé avec tout ce qui va se
passer. Ça, c'est une bonne question, là. Le fait de se sentir protégé, c'est une bonne question. C'est pas qu'on se sent protégé, on est super, super protégé. On est même enclavé par les forces publiques, on va dire. Hein. Parce que là, il y en a de trop. Hein. Pendant une semaine, ils nous enferment là comme des lapins dans des cages. Là, on ne peut même pas sortir. Il faut des badges, il faut des...
Vous êtes un gauchiste alors?
Pas du tout. Je n'appartiens à aucun bord. Je suis ni de gauche ni de droite.
Vous faites juste des beignets.
Beignets, crêpes si vous voulez. Regardez, elle n'est pas belle cette choucroute là?
Il y a un plat qui fait un mètre de diamètre.
Voilà, une grande poêle.
Avec plein de choucroute à l'intérieur.
Voilà, des lardons, choucroute, spätzle. Ça, c'est la spécialité alsacienne, ça. Arrosé au vin blanc, salé, poivré, ça, c'est super bon, ça. L'Alsace, elle est réputée pour sa bonne choucroute. Et là, vous pouvez en goûter. Tu peux donner à monsieur goûter. Elle est très, très, très bonne. Mais par contre, ceux du sommet de l'OTAN, Medvedev et compagnie, là, j'en suis sûr et certain. Ils savent même pas ce que ça veut dire une choucroute.
C'est quoi la place?
On est sur la place pour les périodes de Pâques, comme tous les ans depuis une vingtaine d'années. Et là, cette année, on est un peu embêté pour, c'est-à-dire que mercredi soir on démonte et pour revenir lundi, quoi. C'est juste ça le problème.
On vous fait démonter la boutique là?
Ah oui, 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 toute la sur la place Gutenberg sera vide mercredi soir à minuit. C'est ce qu'ils ont exigé. Mercredi soir à minuit, la place est complètement vide. Et on reviendra lundi. Moi, ça me fait 3 jours de repos, mais je resterai pas sur Strasbourg.
Ah bon, vous en allez? Vous voulez pas voir Obama, bah écoutez, Nicolas Sarkozy.
Je vous donne un meilleur exemple. J'ai mon épouse qui travaille au rond-point à Gage-Bretagne. À partir de jeudi soir, l'autoroute est fermée dans les deux sens.
Et comment elle va faire pour y aller?
Je sais pas, il faudra prendre des petites rues, il faudra qu'elle se lève 2 heures plus tôt.
Mais quand même, votre mère, il l'a dit, c'est une chance pour Strasbourg.
De quoi? Il n'y a pas de retombée pour nous.
Vous ne pensez pas que les ventes de choucroute, elles vont augmenter aux États-Unis une fois qu'ils auront vu comment c'est beau Strasbourg à la télé?
Ils nous ont enclavés, ils nous ont enfermés comme des lapins dans des cages. On ne peut plus sortir. Conclusion générale, le sommet de l'OTAN, ce n'est pas pour nous.
Hein?
Vous savez ce que disait mon collègue hier à propos de l'OTAN? OTAN, Organisation des terroristes des armes nucléaires. Ça, c'est l'OTAN.
Oh, mais vous êtes un gauchiste, vous voyez, je l'avais dit.
Voilà. Je n'appartiens à aucun bord.
C'est pas étonnant que votre casquette elle soit rouge. Quoi.
Vous
Danger, danger, danger sur Strasbourg. Alors que des manifestants violents risquent d'affluer de l'Europe entière, près de 25 000 policiers français et allemands quadrillent les rives du Rhin. Voilà le risque, voilà le danger, ces manifestants violents, comme l'écrit le quotidien Le Figaro. 5 à 6 000 casseurs sont attendus. Tout le monde est concentré sur le sommet, dont la vitrine médiatique risque d'aimanter des manifestants violents venus de l'Europe tout entière, surfant sur l'anti-impérialisme, l'anti-militarisme, le retrait des troupes en Afghanistan, l'anti-globalisation, voire la lutte contre le réchauffement climatique. Ce front contestataire s'installera dans un village autogéré. Voilà ce qui se passe à Strasbourg. Voilà le risque, voilà le danger, voilà le fléau, voilà la menace. Ce sont ces, il faut bien les appeler par leur véritable nom, ces anarcho-terroristes qui vont fondre sur cette charmante cité. Évidemment, cet état de siège, ce déploiement d'un incroyable dispositif de sécurité suggère qu'il y a menace, qu'il y a terrifiante menace. Et une menace d'autant plus terrifiante qu'elle est floue. Autrefois, on savait, c'était les rouges, c'était les communistes. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien. C'est des terroristes, on l'a dit, des islamistes, l'extrême droite, l'extrême gauche. Eh bien, contre ça, contre ce risque qui s'explique par ce déploiement de force, eh bien, il faut l'OTAN. Ce dispositif justifie la pérennité, la prolongation, la suite de l'OTAN après la guerre froide et l'intégration de la France dans le commandement, comme le souhaite notre actuel président de la République, alors qu'un certain Charles de Gaulle, on s'en souvient, avait claqué la porte de l'organisation de l'Atlantique Nord. Voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons là? Quel sens tout cela peut avoir? Nous sommes ensemble jusqu'à 16h avec François Ruffin. C'est là-bas si j'y suis. No to NATO.
I'm George W. Bush, leader of the free world.
Je suis George W. Bush, chef du monde libre.
I want to bomb Iraq.
Je veux bombarder l'Irak.
And when the world says no, I say yeah, whatever.
Et quand le monde dit non, je dis
ouais, mon cul. Saddam has started to meet our demands.
Saddam fait maintenant ce qu'on lui dit.
Yeah, whatever.
Ouais, mon cul.
I talked to Colin Powell.
J'ai parlé à Colin Powell.
He said,
il a dit,
sir, maybe we should give the inspectors more time.
Peut-être qu'il faudrait donner plus de temps aux inspecteurs.
I said no. You know why?
J'ai dit non. Tu sais pourquoi? Parce qu'ici, c'est les États-Unis.
And this is my
United
States of whatever.
President Bush.
Don't talk to me now.
Les États-Unis.
Mon cul.
Leave it to me.
Je m'en occupe.
Ding dong, ding dong.
Hello. Allô. Ici, c'est Poutine. La Russie empêchera la guerre. On se voit.
Ouais.
Mon cul. Monsieur le Président, la Corée du Nord dispose de l'arme nucléaire.
Ting tong tong ting ting tong tong. Translation.
Traduction.
Ouais.
Mon cul.
Ding dong, ding dong.
I am Bin Laden.
Je suis Bin Laden.
You still have not caught me.
Tu m'as toujours pas attrapé.
I'm George W.
Et moi, je suis George W. Bush.
You know what the W stands for?
C'est quoi?
Yet.
Ici, c'est les États-Unis de... Les États-Unis de...
And this is ting ting dong, ting ting dong, dong.
Mon cul.
You got the message.
Et j'espère que t'as compris.
À moins d'une semaine du jour J, le Palais des Congrès se transforme en bunker.
France 3, 29 mars 2009.
C'est ici que se tiendra le sommet de l'OTAN et déjà, les rues autour du bâtiment sont strictement contrôlées. Seuls les professionnels chargés de l'organisation y sont acceptés, pour les autres, c'est demi-tour obligatoire. Car toute la ville est cernée. Contrôle aux frontières rétablies, camps militaires en périphérie et patrouilles dans le centre-ville. Certains anti-OTAN ont prévu des actions de désobéissance, mais ils devront faire face au plus important dispositif de sécurité jamais mis en place pour ce genre d'événement.
On passe par là ou par là?
Ouais. On se balade dans la rue, il y a des drapeaux aux fenêtres de l'Union européenne et de la France, en fait, à chaque hôtel. L'hôtel Mercure, là, par exemple. Là-bas, c'était l'hôtel All Seasons, qui avait des drapeaux de la France et de l'Union européenne. Et c'est quoi, là, les étendards qui sont en travers? Il y a un cœur avec...
Avec des petits drapeaux.
drapeau allemand, espagnol, autrichien. Ouais. C'est pour montrer que Strasbourg, c'est le cœur de l'Europe.
Là, il y en a un qui est là-bas, par exemple.
Alors, ça, c'est quoi?
La rue de la Course.
Rue de la Course. Rheingasse, c'est écrit en alsacien et en français. Ouais, là, juste au-dessus de nos têtes, au-dessus du magasin Spar, il y a un drapeau multicolore, un peu les drapeaux patchés, c'est ça?
Voilà,
c'est ça.
No to NATO, patché. Donc, non à l'OTAN et paix, quoi.
Alors, ce drapeau, en fait, il y a toute une histoire. C'est les couleurs arc-en-ciel. On les attribue aux homosexuels, mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça, puisque c'est un drapeau contre les discriminations.
Et donc après, il a été utilisé contre l'intervention de l'OTAN en Afghanistan, en Italie, et il a été recyclé à Strasbourg pour la venue de l'OTAN. Aujourd'hui, il y en a plus de 400 dans Strasbourg.
Voilà, tout le monde a vu ces images stupéfiantes de ces drapeaux. Qu'il faut enlever les drapeaux symboles pacifiques. Alors vous le savez, l'OTAN, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, fête son 60e anniversaire du 3 au 5 avril 2009 à Strasbourg et à Kiel et à Baden-Baden en Allemagne. Elle annoncera un nouveau concept stratégique qui entend remplacer progressivement l'ONU dans cette organisation militaire des grandes puissances occidentales sous un commandement américain, états-unien, Nicolas Sarkozy, notre président bien-aimé, qui accueille ce sommet, va annoncer la pleine réintégration de la France et appeler à de nouveaux renforts en Afghanistan. Aussi, évidemment, vous avez compris, des nombreuses associations et des organisations se sont regroupés dans le collectif OTAN Afghanistan, dans le collectif No to NATO, pour quoi donc? Eh bien, pour exprimer leur refus de voir le monde et l'Europe poursuivre la politique de la force, de la guerre, du surarmement et des gigantesques et absurdes dépenses militaires. Pour donner une idée de ce qu'est le budget de l'OTAN, 1500 milliards d'euros en 2005, avec les contributeurs suivants, États-Unis 29%, Allemagne 19,9%, Royaume-Uni 11,5%, Italie 7,33% et France 6,4% de ces 1500 milliards d'euros. Donc c'est une somme assez rondelette et qui, dans l'état actuel de notre bel hexagone, pourrait sans doute être attribuée à d'autres, dans d'autres domaines. C'est évidemment ce que pensent ceux qui se réunissent contre ce sommet. C'est vraiment un cheval et une alouette. Un énorme cheval et une toute petite alouette. Mais la façon dont les choses sont présentées, le danger, le risque, il vient de ces quelques hirsutes qui entendent s'exprimer contre ce sommet de l'OTAN. Voilà Jean-Charles qui est éducateur sportif à la mairie, qui est un militant associatif et qui a un témoignage de l'intérieur de l'OTAN. Il faut rappeler, je le disais en commençant, mais vous le savez, que l'OTAN a survécu au pacte de Varsovie. Il y a eu d'abord l'OTAN, puis le pacte de Varsovie. Et évidemment, lors de l'effondrement de l'URSS et du monde communiste, le pacte de Varsovie ça a disparu dans le même moment, c'était il y a 20 ans. Eh bien, l'OTAN a survécu. Jean-Charles.
Le pacte de Varsovie, il n'existe plus. Donc l'OTAN, elle n'a plus de raison d'être. 60 ans, c'est un bon âge pour la retraite, non? Vous pensez pas ça? Parce que l'OTAN, pour y avoir effectué quelques séjours...
Vous avez effectué des séjours, ouais, à l'OTAN?
Oui, en tant que... j'ai un âge qui m'imposait de faire mon service militaire. Donc comme je voulais que ça se passe dans de bonnes conditions, j'ai fait le choix d'être officier. Et donc pendant mes 2 ans, j'ai eu l'occasion d'aller une quinzaine de jours au QG.
2 ans de service militaire.
Oui.
Il faut enlever ça.
Non, quand vous êtes républicain et socialiste et que vous, dans la logique à Jean Jaurès, chaque citoyen participe de son cœur et de son corps à la défense de son pays. Merci. Voilà, c'est une idée généreuse. Donner 2 ans de sa vie, effectivement, à son pays, à la collectivité. Alors, voilà. C'était ça l'idée.
l'idéal a tenu le choc face à la réalité de l'armée.
Traverser la route, c'est pas forcément facile tous les jours, mais on a réussi à, au niveau de responsabilité que j'avais, à effectivement à mettre des choses en place. Organiser des cours du soir pour apprendre le français et apprendre à compter aux appelés du contingent que j'avais sous mes ordres qui venaient des quartiers nord de Marseille, par exemple. Voilà.
Et donc, tu es allé à l'OTAN?
Oui, oui, c'est pas par hasard, hein, c'est que je me suis porté volontaire pour aller là-bas pendant 15 jours, effectivement. Ouais. Voilà, voir comment c'était. Ouais. Voilà. Et au quartier général de l'OTAN, voilà, on peut pas faire ça tous les jours.
Donc, c'est où ça?
C'est à Bruxelles.
Tu as passé 15 jours là-bas, deux ouais. semaines?
En deux semaines, on a fait passer beaucoup de réunions d'état-major, à planifier des opérations.
C'est pas toi qui as décidé la guerre au Kosovo quand même?
Non, ben justement, alors ce qui se passe à l'OTAN, les ordres in fine, ils viennent de la Maison Blanche. Moi, j'ai pu m'en rendre compte voilà, en étant là-bas. C'est la Maison Blanche qui décide de tout. Puis après, il y a effectivement des pions. Des Espagnols, des Français, des grands généraux, ils se donnent de l'importance, mais au final, c'est les États-Unis qui décident. Donc voilà, l'utilisation systématique de l'anglais, même entre Belges et Français. Après, je vais pas rentrer dans le détail de comment est composée une section, un régiment, les divisions, mais c'est les schémas des États-Unis. Voilà, même le matériel, le carburant.
C'est pas Total, c'est ExxonMobil.
Ouais, c'est tout. Le calibre.
Quand il y a des Belges et des Français qui se voient, entre eux.
Faut parler français en secret. Mais officiellement, dans les réunions, on parle en anglais.
Ils parlent français, mais en secret.
En
alors.
Secret, ouais. Ouais, c'est doucement, ouais, parce qu'il faut pas se faire repérer. Mais...
Tu en montes dans le tram. Donc, toi, t'es dans le collectif contre la tenue du sommet de l'OTAN à Strasbourg, mais t'es pas antimilitariste?
Non. Non, non. Je pense qu'au niveau européen, on doit être en capacité, effectivement, d'organiser une défense européenne. Voilà, de façon indépendante. Pas que ce qu'on soit des supplétifs des États-Unis.
Hier encore, l'OTAN a reconnu une nouvelle bavure, le bombardement du centre de Niche qui aurait fait au moins 15 morts et 70 blessés.
France 2, 8 mai 1999.
L'Alliance visait l'aéroport de la ville, situé dans le sud-est du pays, mais c'est en plein centre, à proximité d'un marché, que les bombes à fragmentation sont tombées, touchant de nombreux civils. Après cette erreur de l'Alliance, le bilan s'alourdit encore un peu plus parmi les civils. Depuis le début du conflit, au moins 222 personnes auraient été tuées lors des 7 bavures reconnues par l'Alliance et précédant le bombardement de l'ambassade de Chine. Parmi les plus meurtrières, la destruction le 1er mai d'un pont à Lausanne, au Kosovo. Les avions de l'Alliance touchent par erreur un car qui tentait de le traverser. Le drame aurait fait entre 40 et 60 morts. C'est encore en visant un pont sur lequel passait un train que les forces de l'Alliance tuent 55 personnes au sud de la Serbie le 12 avril. Un accident qualifié de tout à fait regrettable par Wesley Clark, commandant des forces alliées en Europe. La plus grosse bavure de l'OTAN reste sans aucun doute le bombardement de deux convois de réfugiés kosovars dans la région de Jakovica le 14 avril. Croyant neutraliser des véhicules militaires serbes, les forces de l'Alliance visent ceux qu'elles étaient censées protéger. 75 personnes sont tuées dans ce drame.
C'était la guerre humanitaire à 99 mai, juin 99 au Kosovo, celle qu'il fallait faire, celle-là il fallait absolument la faire, et vous vous souvenez de ces bombardements sur la Serbie, sur Belgrade, à cette époque, Serbie-Belgrade, et bombardement sur l'ambassade de Chine à l'époque. Eh bien, ça tombait, c'est drôle, il y a 10 ans, dites donc. Ah, et puis c'était eh bien 10 ans après la chute du mur. Ah, et donc ça aurait dû être cette chute du mur aussi la chute de l'OTAN. Eh bien non, 10 ans après, à l'occasion de son anniversaire, l'OTAN, l'Alliance, comme l'on disait, était à la base de ces bombardements sur la Serbie. Et nous sommes demain, 20 ans plus tard. Alors pour essayer de comprendre, il faut dire aussi une chose, c'est que selon les sondages d'opinion qui ont été faits avant, il y a déjà au moins une semaine, 58%, ça dépend des sondages, mais enfin, entre 52% et 58% des Français, l'opinion française serait favorable à la démarche de notre président de la République, de la réintégration de la
de la France au sein du commandement de l'OTAN. C'est pas la majorité, c'est une petite majorité dans la classe politique, mais enfin il se trouve quand même de nombreuses voix, y compris à droite, pour ne pas être d'accord avec cette intégration, notamment ceux qui sont fidèles aux idées du général de Gaulle et à la politique étrangère de la France telle qu'il l'avait conçue et telle que la droite gaulliste l'avait jusque-là entretenue. Pour comprendre un peu tout cela, voilà Pierre Conessa. Pierre Conessa, il est ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense. Il a été en charge de la direction des relations internationales. Il enseigne à l'ENA, etc., etc. Bon, quelqu'un qui s'y connaît, j'ai 10 lignes de choses à vous dire sur lui, mais il est l'auteur tout récent d'un livre intitulé « Les mécaniques du chaos » aux éditions de l'Aube, « Bouchisme, prolifération et terrorisme », et il nous en dit un peu plus. Pierre connaît ça.
L'Alliance déploie une espèce de logomachie qui est complètement contraire à la réalité. Je lisais sur le site de l'OTAN, et on expliquait que l'OTAN contribuait à la maîtrise des armements, le domaine des mines antipersonnelles, les petites armes, les forces conventionnelles en Europe, etc., etc. Bon. C'est vrai, mais on oublie de dire une chose essentielle, c'est que les Américains se sont retirés depuis 1991 de toutes les grandes structures internationales de sécurité. Ils n'ont pas signé l'accord sur les mines antipersonnelles, ils refusent de signer l'accord sur les petites armes. Ils ont appliqué la convention chimique de telle manière qu'on ne peut faire aucun contrôle sur le territoire des États-Unis. On a vu la crise de l'anthrax, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des laboratoires américains qui poursuivent des recherches sur les armes bactériologiques. Ils ont refusé de signer le traité sur l'interdiction des essais nucléaires parce qu'ils estiment qu'ils doivent continuer à poursuivre des réflexions sur des essais nucléaires. Donc on a quelque chose, si vous voulez, qui est une espèce de devanture où on explique que l'OTAN contribue à la maîtrise des armements, sauf que l'acteur majeur de l'OTAN se refuse à appliquer ces accords. C'est-à-dire, on est embarqué dans une alliance où il y a encore une structure militaire et un pouvoir décisionnel qui est totalement unilatéral. Le site de l'OTAN explique qu'on fait des efforts pour maîtriser les armements, alors qu'on a un budget américain qui est passé au-delà des 575 milliards de dollars aujourd'hui. Encore une fois, on est à 90 milliards de dollars pour le budget de défense chinois, 90 ou 100, peu importe, mais enfin, on est quand même loin des 575 du budget américain. Et c'est les Américains qui expliquent aux Chinois que leur effort de défense est inquiétant. Encore une fois, si vous voulez, on baigne dans une espèce d'ambiance où on se parle à soi-même et on se dit quand même qu'est-ce qu'on est bon, on est démocrate et on est le bien. Le cas de l'Iran, si vous voulez, est un cas très intéressant. L'Iran, aujourd'hui, on explique que l'Iran est déstabilisant et menaçant parce qu'ils ont l'arme nucléaire, mais enfin, si vous vous mettez à Téhéran, vous vous rendez compte que l'Iran est complètement encerclé aujourd'hui. Ils ont la flotte américaine dans le Golfe, ils ont les Américains en Irak. Ils ont les Américains et l'OTAN en Afghanistan. Ils ont un Pakistan nucléaire. Vous voyez que si vous regardez la situation vue de Téhéran, vous avez de quoi légitimer le choix du nucléaire. En plus, n'oubliez pas qu'on leur a infligé une guerre en soutenant l'Irak. Pour la première fois dans l'histoire de l'ONU, on a soutenu l'agresseur et non pas l'agressé. Et cette guerre a fait à peu près 800 000 morts en Iran, c'est-à-dire autant que la guerre de 14 chez nous. Et on veut expliquer à ces gens-là que le nucléaire ne les protégerait pas et que nous, on va leur garantir leur sécurité. Donc, il faut arrêter. On peut pas continuer à faire croire aux autres que c'est notre vérité qui est la vérité absolue.
À Paris, comme partout ailleurs dans les pays atlantiques, immense cité ou humble bourgade, des hommes, des femmes, des enfants vivent libres, tranquilles, confiants dans la solidité du rempart que constitue leur entente, leur union, leur détermination et leur amour de la paix.
Pour qui tu te passes, peste peuple périlleux. Tu t'étends partout, pas de tact, tout c'est périlleux. Ça va péter de partout, toutes les parties opprimées. Sans droit payé pour tourer, pays qui t'a tâté touré. Je sais pas pourquoi personne peut te porter. Y'a des vérités héritées, ardues à porter. Pourtant, c'est à porter ta main, mais c'est ta main d'état pour l'instant. C'est trop gros pour ton ego. Épidémie, t'as pas parce que tu penses être répand comme une épidémie. T'as pas de bon sens, le con, tu penses comme une contagion. Tu mets des légions dans toutes les régions. Ça fait des lésions, des sécrétions. Matière première pour ta réflexion. Des états en état de suggestion et d'indigence. La fatuité de fatal. Fait qu'il faut forcer forcément un peu plus pour faire fuir le virus qui se camoufle au très fond de toi. Tu fais peur au monde, mais fais gaffe à la France. Ça gronde, ça gronde. On veut pas être le maître du monde sans mépriser le monde. Tu sais que l'image sort parce qu'elle sort, ça gronde. On veut pas être le maître du monde et puis aimer le monde.
et tac, un coup d'exacto, tout en tôt, ou dans les exactions vont pleuvoir.
La mission, un vrai fonction dans ton calcium.
Tu passes à l'action, même si rien à faire que de raser tous les arbres. Dans les pays, c'est que qui porte la barbe. Faire sauter toutes les cavernes, c'est de l'impatience, fiction du Jules Verne. Mais t'as raison, ça prendrait beaucoup trop de temps. Sans tension, sans temps de repentance. C'est des excuses, on est des lettres à la planète pour que se mette à taper. Si tous les peuples que t'as tapé à la machine, faute de frappe, vous auriez la sympathie comme arme de persuasion massive. Moi, je dis que j'avais le même discours qu'Oussama Ben Laden. Oussama Ben Laden.
On peut
comprendre
le mind du monde sans mépriser le monde.
C'est nous les masters parce qu'à ce temps, ça gronde.
On peut pas être le mind du monde et puis aimer le monde. On sent son nombril de l'ombre.
On peut pas être le mind du monde sans tâcher le monde.
Ça prend plus que plaster pour calmer la fonte.
On peut pas être le mind du monde.
À la fenêtre, il y a un drapeau. Il y avait déjà, vous aviez déjà tout pour soutenir le drapeau en fait. C'était déjà prévu sur votre balcon.
Ah bien sûr. Non, bien sûr, moi c'est à Strasbourg, c'est les immeubles sont conçus avec des rampes pour les drapeaux. Hein. C'est quand même une ville qui a été allemande, qui a été française. Donc à chaque fois. Ça a été marqué dans les immeubles le fait qu'il puisse y avoir un endroit pour mettre le drapeau français.
Ah, c'est pas pour changer le drapeau, un coup mettre le drapeau allemand, un coup mettre le drapeau français.
Je pense pas.
Donc vous avez accroché le drapeau, vous avez dû l'ajuster avec un bouchon de liège pour pas que la hampe se barre, c'est ça?
Voilà, parce que j'ai pas envie en plus de blesser un passant.
Et au bout, il y a le drapeau patché de toutes les couleurs. Alors celui-là, il y a marqué patché, mais il n'y a pas marqué No to NATO.
Non, parce que celui-ci, on l'avait acheté en 2003, quand il y avait la guerre contre l'Irak. Et le drapeau patché No to NATO, il est à une autre fenêtre.
Ah, vous en avez deux?
Oui, j'en ai deux, bien sûr.
D'accord, et vous n'avez pas fait de la broderie à celui-là pour marquer No to NATO?
Non, j'ai pas franchement eu le temps, puisque la préparation du contre-sommet prend quand même énormément de temps.
Quand est-ce que vous l'avez installé, ce drapeau?
Alors, il a été installé, en fait, juste après le défilé du carnaval. Voilà, donc on a lancé un peu l'opération avec, donc qui avait, où on a défilé, donc on a eu le droit de défiler, même y compris en zone rouge, future zone rouge, hein, avec une quinzaine de personnes qui étaient enveloppées dans des drapeaux.
Tous les ans, vous faites un char militant comme ça au milieu du carnaval?
Pas du tout, ça a été improvisé. Ça a été improvisé la veille. Donc le drapeau a été installé le 15 mars, puis le mardi soir. Donc patrouille de police. Donc je n'étais pas là. Donc mon fils était présent. On lui demande ce qui avait marqué sur le drapeau. Donc il a expliqué patché, paix, no to NATO, non à l'OTAN. Le policier a dit c'est bien ce que je pensais. Donc j'ai les consignes. Je vous demanderai d'enlever le drapeau.
Donc là, vous êtes en infraction, vous avez remis le drapeau.
Ah non, je suis plus en infraction parce que actuellement, il n'y a rien qui dise qu'on n'a pas le droit de mettre des drapeaux à la fenêtre, surtout des drapeaux paix.
Oui, pourtant, l'OTAN, c'est la défense de la liberté, c'est la défense de la démocratie.
Historiquement, c'est pas ça.
Non. Ah bon?
Ça a été surtout pour essayer d'empêcher la progression du communisme. Donc, il y avait d'un côté l'OTAN, de l'autre côté le traité de Varsovie. Hein, le traité de Varsovie avait marqué dans son intitulé que le jour où l'OTAN disparaissait, eux disparaissaient. Bon, les régimes dits communistes se sont effondrés et donc l'OTAN aurait dû disparaître. Or l'OTAN s'est donné une nouvelle mission, c'est celle d'être gendarme du monde. Pour nous, l'OTAN aurait dû dissoudre et celui qui aurait dû prendre le relais, celui qui aurait dû prendre plus de pouvoir, c'est l'ONU. Or l'ONU actuellement est critiquée. On lui donne pas vraiment les moyens, on s'investit vraiment pas vraiment dans cette institution et on favorise quand même l'institution qui est un outil guerrier.
Très rapidement, il faut rappeler que l'OTAN a été créé en avril 1949, le 4 avril 1949 exactement, donc 6 ans, puisqu'on en parle beaucoup, avant le pacte de Varsovie, et l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, était alors une organisation politico-militaire de défense du libre-échange, principalement dirigée à l'époque contre l'URSS. Ce qu'il faut aussi ne pas oublier, c'est que l'OTAN a été le fer de lance de la prolifération nucléaire. En 79, l'OTAN décide de déployer en Europe des missiles nucléaires de courte portée, c'est les Pershing, et symétriquement, l'URSS de son côté entend faire de même avec ses SS-20. Il y a eu des très grandes manifestations partout qui pour mettre en échec ces projets et qui ont fini par arracher en 1988 un accord de destruction des missiles à courte portée. Mais l'OTAN possède aujourd'hui 480 missiles nucléaires déployés dans 5 pays. Donc on le voit, l'OTAN aggrave la tension. On a évoqué le Kosovo. Là, l'OTAN a fait la guerre en Europe. Et aujourd'hui, l'argumentation n'est évidemment plus l'URSS. C'est l'approvisionnement en ressources vitales qui est l'un des objectifs de l'OTAN. C'est la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, voire... souvenez-vous de ce qui s'est passé en Irak, contre le terrorisme, qui est une chose molle, indistincte, et derrière lequel on peut mettre absolument tout ce qu'on veut. Et donc voilà un petit peu ce qu'est l'OTAN. Il faut rappeler que suite encore une fois au 24 mars 1998, parce que c'était bien cette année-là, que l'OTAN a déclenché des frappes au Kosovo sans mandat de l'ONU, on vient d'en parler, la concurrence entre l'OTAN et l'ONU se fait au détriment des Nations Unies, et parallèlement, les États-Unis ont installé des bases militaires dans les Balkans et dans des pays de l'Est à la suite de ces opérations. Autant d'éléments qui peuvent susciter une certaine interrogation et des éléments de réponse au moins que nous apporte Pierre Conessa.
Ces affiches que vous avez collées week-end ?
Voilà, c'est les affichettes qu'on a collées ce week-end, et puis on va les réduire en flyers et les boîter également autour du secteur concerné. Donc sur les quartiers sud de Strasbourg, Neuhof, Stockfeld, Ganzo.
Donc il y a à chaque fois le logo de votre parti, voilà. L'UMP, Union pour un Mouvement Populaire, puisqu'on se trouve à votre permanence parlementaire. Monsieur Maurer, vous êtes à la fois conseiller général, voilà. Vous êtes également député du Bas-Rhin. Devant vous, vous avez sorti des affiches que vous avez collées ce week-end. Le premier, c'est « L'OTAN a sauvé la démocratie ». Le deuxième, c'est « L'OTAN bouclier européen ». Le troisième, c'est une addition « OTAN plus France plus Europe égale paix ». Et le quatrième, c'est « L'OTAN protège la France ».
Voilà, on a fait un peu de collage ce week-end sur les panneaux d'expression libre. Et puis, très concrètement aussi, pourquoi on l'a fait ? Parce que je trouvais qu'on sombrait un peu dans la caricature avec les slogans des anti-OTAN. Or, l'OTAN avait quand même été ce qui nous a permis de préserver à la fois du bloc soviétique. Et donc, il me semblait de mon devoir d'élu également d'affirmer le rôle positif qu'a joué l'OTAN pour le maintien des libertés en Europe.
Alors, vous dites, l'OTAN nous a servi à nous protéger du communisme, nous a servi à nous protéger de l'Union soviétique, mais aujourd'hui ça nous sert à nous protéger contre qui ? Où est l'ennemi ?
Aujourd'hui l'ennemi, il est multipolaire, puisque à la fois l'ennemi c'est le terrorisme, c'est également la résurgence de bien des nationalismes. Des conflits peuvent surgir à la fois en Europe et dans d'autres parties du monde, et donc aujourd'hui à la fois l'OTAN c'est une capacité de projection, une capacité de déployer des moyens militaires pour être vraiment des soldats de la paix, en tout cas c'est comme ça que je l'entends. Et aujourd'hui on le voit bien, à la fois le terrorisme peut s'exporter de toutes les façons partout, et je crois que là-dessus, je disais ce matin à quelqu'un, il manque plus que les sous-marins, mais bon voilà.
Les sous-marins dans le Rhin.
Les sous-marins dans le Rhin, voilà, il manque plus que ça, on n'a pas de mer intérieure en tout cas à protéger, mais voilà, toute la panoplie des dispositifs militaires, policiers, gendarmerie sont en place, effectivement, comme vous le disiez, une surveillance aéroterrestre également est en place, c'est considérable.
Et pour se protéger contre qui alors, monsieur Morin?
Vous savez, le 11 septembre, personne n'avait prévu quand c'est arrivé. Tout le monde s'est étonné de ce qui est arrivé, quelles que soient les alertes qui puissent être données. Et donc aujourd'hui, face à une sorte d'hydre à beaucoup de têtes, je crois qu'il faut tout mettre en place pour que ça se passe du mieux possible, et en tout cas espérer que ce sommet-là soit véritablement un sommet où on fasse la promotion de la paix et puis d'une volonté de sauvegarder la planète d'un certain nombre de dérives.
En vous écoutant, je me dis, de la même manière que l'OTAN à faire face à une menace multiple et invisible. C'est un peu comme si les forces de police et de gendarmerie ici, pour ce sommet de l'OTAN, avaient à faire face à une menace multiple et invisible.
Ça me semble exactement ça. Aujourd'hui, vous avez dans la nature des personnes qui peuvent circuler, qui ne s'annonceront pas forcément. Et donc, il s'agit de prévoir à peu près l'inimaginable et l'impossible. Et donc, aujourd'hui, ben voilà, c'est le travail des forces de police et de sécurité d'essayer de parer à toutes les éventualités. On s'en remettra à cette expertise-là. Et puis, à la nécessité, voilà, de considérer que Strasbourg, durant 2 jours, est un petit peu en état de siège.
Le président du Conseil français demandait ensuite l'échange d'informations scientifiques et notamment des résultats obtenus en matière atomique proposés déjà par la France. Il suggérait en outre une coopération scientifique étroite dans le domaine de la recherche pure qui permettrait aux savants du monde libre de travailler en commun d'une façon décisive. La France, de son côté, est à même d'apporter une puissante contribution au renforcement de l'Alliance Atlantique.
Alors voilà, on a d'abord rencontré Jean-Philippe Maurer, qui est député UMP, qui a donné son point de vue. Il a un point de vue du côté du micro, puis après il a un point de vue un peu nuancé, off. Mais enfin voilà, c'est la voix de ceux qui soutiennent, les arguments de ceux qui soutiennent ce sommet et les raisons qu'a Nicolas Sarkozy de soutenir, évidemment d'être présent et omniprésent lors de ce sommet. On va le voir au moins. Revenons donc, comme je le disais, à Pierre Conessa, qui a un avis un petit peu différent.
Autant la mission de l'OTAN, quand elle est créée il y a une centaine d'années, correspondait à une situation géostratégique particulière, qui était faire face au bloc soviétique. En 91, on décide de maintenir l'alliance, on essaye de lui trouver un nouveau concept, on travaille difficilement, on arrive à en trouver un en 99, puis qui est encore assez marqué par l'idée d'une menace majeure, qui évidemment serait une menace russe.
Donc il faut toujours qu'il y ait une menace en fait.
Oui, il faut toujours qu'il y ait une menace. Alors si vous n'avez pas la menace, vous avez un autre sémantique, c'est-à-dire que vous avez des risques, des défis, des intérêts à protéger, des choses comme ça. Mais enfin, de toute façon, vous avez toujours un argumentaire de cette nature.
Entre 91 et 99, il y a une phase d'hésitation, ouais, où on ne sait pas très bien quelles sont les missions de l'OTAN, qui perdurent, mais on ne sait pas trop bien quelles sont ses missions. Et c'est, on redéfinit les missions de l'OTAN en 99, et on dit quoi? Alors c'est quoi la mission de l'OTAN en 99?
De 91 à 99, on connaît la crise yougoslave surtout, hein, n'oubliez pas. C'est-à-dire que finalement, l'outil militaire se légitime par le fait qu'il faut gérer la crise yougoslave. Donc 99, on essaye de redéfinir un concept qui reste quand même l'idée que une menace majeure n'est pas totalement exclue sur le continent. Enfin, bon, c'est pas très très clair. Bon. Après 99, en fait, il se passe les événements de 2001. Donc, il y a un sentiment d'unité des pays occidentaux, des pays démocratiques, contre cette menace islamiste. Les conséquences, vous les connaissez, c'est-à-dire la première intervention de l'Alliance en Afghanistan, et c'est la première opération de l'OTAN hors de la zone. Et donc, aujourd'hui, on est en train de renégocier un nouveau concept stratégique de l'OTAN, mais qui devient une espèce de concept fourre-tout, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une structure qui se cherche une mission, et on va tout aussi bien parler de la menace terroriste, du réchauffement climatique, de la crise énergétique, et des choses, et de la lutte contre le terrorisme. Donc, il reste en arrière-fond, chez tous les stratèges du monde occidental, l'idée qu'ils ont une responsabilité de la sécurité de la planète. C'est une manière assez surprenante de considérer que la sécurité se définit quelque part entre Washington, Paris, Londres et Berlin. Les Occidentaux sont-ils en droit de définir la sécurité de la planète seuls? C'est la question que pose le président Poutine, et on a vu parfois quelques conséquences, mais c'est aussi la question qu'a posé Mahathir en Malaisie, c'est la question que posent les Chinois, c'est-à-dire pourquoi les Occidentaux se donnent-ils le droit, en particulier par des corps expéditionnaires, de croire qu'ils vont assurer la stabilité partout dans le monde?
La France n'est plus aujourd'hui menacée d'une invasion militaire, et cela peut-être pour la première fois dans son histoire.
Nicolas Sarkozy.
D'autres menaces se sont substituées, elles sont liées à la mondialisation.
11 mars 2009.
Terrorisme, prolifération, attaque contre les systèmes spatiaux, attaque contre les systèmes informatiques, dont nos sociétés technologiques sont profondément dépendantes. Les crises qui frappent le monde affectent nos valeurs, nos intérêts et la sécurité des Français. Les compétitions pour l'accès à l'eau, à l'énergie, aux matières premières, la dégradation de l'environnement, les pandémies, les migrations non maîtrisées, sont lourdes de conséquences pour notre sécurité. Et demain, une surprise stratégique peut venir bouleverser littéralement les conditions de notre sécurité. Et la crise financière mondiale illustre bien à quel point le monde peut changer radicalement et pas forcément en bien. Ces menaces peuvent paraître lointaines, mais ne nous y trompons pas. Le territoire national peut être frappé demain, comme celui de nos alliés, et la défense de la France se joue désormais tout autant sur notre territoire qu'à des milliers de kilomètres dans l'espace ou sur les réseaux informatiques.
Est-ce que la décision de réintégrer l'OTAN, au moment où elle est annoncée, elle est préparée, etc., par le président Sarkozy, correspond à un rôle stratégique particulier ?
Pierre connaît ça.
Moi, personnellement, j'en doute. Quand le président Sarkozy le décide, on est encore avec à Washington une équipe Bush qui a été la plus déstabilisante et la plus destructrice qu'on ait connue sur ces 60 dernières années à la Maison-Blanche. Et donc, rejoindre une structure d'alliance dans laquelle on a une équipe américaine qui est aussi unilatéraliste, aussi déstabilisante, aussi obtus sur le plan de la politique internationale, me paraissait à ce moment-là totalement décalé. Bon, aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau président qui est le président Obama. Tout le monde le part de toutes les qualités. Personnellement, je n'en sais rien. Je ne vois pas pourquoi l'outil diplomatique américain, qui est très fortement marqué par l'unilatéralisme, qui est très fortement marqué par le souci de sécuriser les États-Unis avant tout et d'utiliser l'outil militaire un peu partout dans le monde, a fondamentalement changé. J'espère qu'il l'a changé. Je ne suis pas sûr, j'en attends les preuves. Réintégrer l'OTAN ne me paraît pas une question très illégitime, si vous voulez. Mais par contre, le réintégrer dans un système décisionnel où les Américains n'ont pas fait la preuve qu'ils sont prêts à contribuer à la sécurité internationale et non pas à la définir seuls, c'est pour ça que j'ai des doutes.
L'Alliance, c'est les États-Unis qui en déterminent la direction essentiellement ?
Si vous voulez, il y a deux moments d'alliance. Il y a des moments où l'alliance est en paix, on discute. On fait des plans de défense, on définit des organigrammes, etc. Et puis, il y a des opérations de guerre. Et dans les opérations de guerre, les Américains ne lâchent jamais le manche. Jamais.
Merci à tous. C'était un reportage de François Ruffin. Merci à Frédéric Thierry, Edith, Jean-Charles, Manuel, Patrick Waxman et Pierre Connaissat. Je rappelle le titre de son bouquin édité à l'Aube, aux éditions de l'Aube, Les mécaniques du chaos, bouchisme, prolifération et terrorisme. Et puis, venez nombreux à la manifestation du samedi 4 avril à Strasbourg. Départ à 13h sur le pont de l'Europe côté français. Il y a également des manifestations à Kiel et à Baden-Baden côté allemand. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires sur le site. Également sur là-bas.org, là-bas.org, le site non officiel de là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et là aussi faire des commentaires. À la technique, Cédric Lalanne et Pascal Baldassari, Koye Nguyen et Raphaël Mouterde ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry et Agnès Lebot. Attends vos messages au répondeur de la base J'y suis, dont le numéro est 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et bien évidemment, pour tout ce mouvement, ce week-end, vous avez sur Internet tous les sites possibles et imaginables sur ce sujet. Réclame.